Si j'ai bien compris, le texte est l'intitulé de notre débat était marxisme, psychanalyse, antipsychiatrie, et je crois qu'il aurait fallu ajouter antipsychanalyse. Alors je m'explique tout de suite, je ne dirai rien aujourd'hui sur l'antipsychiatrie pour la simple raison que je ne m'estime pas assez compétent pour parler publiquement de cela. Je ne dirai non plus rien de l'antipsychanalyse, même s'il est très à la mode, parce que je pense qu'il faut commencer d'abord par le commencement. Et c'est ni la première fois, ni la dernière fois que la psychanalyse est attaquée de l'extérieur. Alors que ce soit un professeur réactionnaire et con, comme Debré Ritzen, que vous avez peut-être entendu parler à la radio, des choses comme ça, ou que ce soit un professeur aussi distingué, je le dis sans ironie, comme Deleuze, qui attaque la psychanalyse, elle s'en portera ni mieux ni plus mal. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous n'en parlerons pas non plus de cela. Alors, je vais donc m'étendre sur les rapports entre marxisme et psychanalyse, et ou psychanalyse et marxisme, prenez ça comme vous voulez, et je vais essayer de ne pas laïusser trop longtemps, pour qu'il y ait du temps pour un débat. Je vais essayer, je dis ça prudemment, de ne pas faire des topos trop universitaires, c'est-à-dire du genre transmission du savoir, parce que je pense que si vous êtes venu ici, c'est plutôt parce que vous voulez comprendre politiquement politique. Je pense donc que l'important, c'est de montrer l'utilité du sujet et des rapports entre marxisme et psychanalyse pour le combat culturel et politico-culturel. Car de ce point de vue-là, si vous voulez, mai 68 a laissé des dégâts épouvantables dans pas mal de têtes, et je crois qu'il faut voir les choses de façon, si vous voulez, la plus objective, la plus informative possible. Je pense que le point 1 aurait dû être l'explication des rapports et surtout l'absence de rapports positifs entre la psychanalyse et le marxisme, et l'émergence du freudomarxisme. J'ai dit tout de suite, quand je parle de freudomarxisme, ça a dans ma bouche une connotation entièrement positive. Ça veut dire, j'utilise le terme ou le concept de freudomarxisme comme quelque chose de tout à fait intéressant et positif, et pas de façon péjorative. Si vous connaissez peut-être d'anciens textes, ou si vous avez entendu parler de cela, ou si vous lisez peut-être, je ne sais pas, la littérature de droite et de gauche qui déblatère contre le freudomarxisme, c'est, si vous voulez, une connotation, c'est-à-dire un environnement négatif. Mais je traiterai ça en point 2. Quoique logiquement, il aurait fallu commencer par cela, parce que je pense qu'il faut d'abord tracer, si vous voulez, le champ dans lequel une discussion sur les rapports entre marxisme et psychanalyse peut avoir de sens. Je vais aller assez vite. Si je vais trop vite, j'espère que vous aurez la simplicité de m'arrêter, et parce que je ne veux pas trop longtemps occuper à moi tout seul, si vous voulez, la parole, parce que je pense qu'on acquérera ensemble à travers la discussion me semble plus intéressant et plus fondé pour vous que simplement le discours que je suis en train de tenir devant vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, le marxisme et la psychanalyse? Il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un aspect anecdotique et peut-être historique, il y a un aspect structurel. Qu'est-ce que ça veut dire, un aspect anecdotique? Par exemple, toutes les deux sciences, pour l'instant je ne vais pas pinailler, et si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vous demande de ne pas pinailler non plus, toutes ces deux sciences, si vous voulez, sont nées en dehors de l'université, n'ont pas eu une reconnaissance académique, et se sont formées, si vous voulez, ont été traitées un tout petit peu comme des choses, si je peux dire trivialement, zinzin. Quand Freud a publié son premier livre sur les rêves, ça était tellement en contradiction avec le rationalisme positiviste à ce moment-là régnant, que Freud était vu par les confrères, soit de l'Académie de médecine, soit de ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences humaines, etc., comme une espèce de Madame Soleil qui avait le titre de professeur, parce qu'ils étaient acquis à titre personnel le titre de professeur. Mais en tout cas, ce n'était pas le monde scientifique n'a pas perçu cela. Je vous rappelle que lors de l'apparition du Capital, Marx a eu le même sort. Alors je ne veux pas non plus faire de longue analyse là-dessus. Je le signale simplement pour noter quelques analogies, si vous voulez. Mais ce qui est plus important, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, ce qui est plus important, c'est, si vous voulez, ce qu'ils ont de commun structurellement parlant, si je peux utiliser ce terme. Alors, je commence là aussi avec les choses les moins importantes en allant vers les choses qui me paraissent les plus importantes. Premièrement, c'est quand même curieux que dans les deux champs qui nous occupent, l'impact de la personne du fondateur et l'impact de la personne du fondateur jusqu'aujourd'hui. L'importance de Freud d'un côté, de Marx de l'autre, peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi, mais c'est quand même intéressant de constater et l'importance de leur rôle et l'importance de ce rôle en même temps rapidement contesté. Alors, dans le cas de Freud, rapidement à l'intérieur du mouvement psychanalytique démarrant, je vous rappelle les scissions, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, Adler-Jung, et ceux qui ont lu Le Monde d'aujourd'hui ont vu que peut-être dans le coin de droite de la première page, le coin dit culturel, on publie enfin, 70 ans après à peu près, l'échange de lettres entre Freud et Jung. Et de l'autre côté, si vous voulez, le fait que les explications au nom de Marx se combattent, si vous voulez, les explications et les explicitations les plus différentes. En même temps, donc, un impact extraordinaire par une personne qui nous ferait douter en quelque sorte presque d'une conception matérialiste de l'histoire et qui montrerait que même chez les marxistes, le rôle de la personne est un certain, je le dis avec un grain de sel naturellement, avec un certain culte de la personnalité, et de l'autre côté, la contestation, soit interne, soit externe, parce que vous le savez, que le marxisme, par exemple, n'a jamais été la seule doctrine officielle du mouvement ouvrier, ni en France, ni d'ailleurs en Allemagne, en dépit de ce qu'on croit, de ce qu'on raconte sur la social-démocratie allemande avant la guerre de 1914. Alors, d'un côté, ils étaient donc, et ça, ce sort, ils l'ont partagé en commun, isolés dans les sphères scientifiques, et deuxièmement, c'est très difficile de s'imaginer ça aujourd'hui parce que la situation a changé du tout au tout, ils étaient isolés dans le monde des gens qui discutent, c'est-à-dire dans le monde des intellectuels. Les intellectuels de la fin du 19e siècle, pour eux, ni la psychanalyse, le freudisme, ni la doctrine de Marx, le marxisme, n'existait. Et ce n'est qu'un phénomène tout à fait récent que, aussi bien le freudisme, les doctrines de Freud que les doctrines de Marx ont pénétré officiellement par la grande porte dans l'édifice universitaire. Parce que vous savez que le monde scientifique sous cet angle-là a changé. Si au siècle passé, si au XVIIe siècle par exemple, la science était portée par des individus riches qui faisaient en quelque sorte souvent à titre personnel des recherches, à partir du 19e siècle, il y a une entreprise universitaire. Celui qui n'était pas dans l'entreprise universitaire ne comptait pas, n'existait pas pour le monde scientifique. Qu'est-ce qu'ils ont de commun de façon structurelle? Eh bien, je peux aller très vite, c'est que tous les deux se voient, se sont vus à l'intérieur des sciences sociales et à l'intérieur en même temps des sciences historiques. Je dis bien les deux, je ne parle pas simplement du marxisme, mais je parle de la psychanalyse et de la psychanalyse à partir de sa naissance. c'est-à-dire la dimension de l'histoire et la dimension de société sont présentes en dépit de ce qu'on raconte ou de ce qu'on fait endosser au père Freud en permanence dans la psychanalyse. Je vous rappellerai un fait aussi simple et aussi niais que tout le monde connaît, que une psychanalyse n'est pas possible sans tenir compte ou en fonction de l'histoire individuelle de l'individu. Alors qu'on prenne l'histoire par le grand bout de la lorgnette, qu'on prenne l'histoire par le petit bout de la lorgnette, en tout cas histoire et société sont toujours présents. Il s'agit donc réellement, dans les deux cas, toujours de science sociale. J'aime mieux le terme science sociale que science humaine. Je pense que dans nos milieux, on ne devrait pas avoir peur d'appeler ça comme ça. Il y a au-delà des similitudes structurelles, des concepts de base qui, des structures de l'œuvre qui sont pareilles. Je prends un concept de base comme la dialectique, sur laquelle vous avez passé deux soirées, je ne sais pas si c'était très réussi ou pas réussi, puisque je n'étais qu'à la première fois, mais en tout cas, je pourrais prendre n'importe quel concept de base du freudisme qui me tomberait premier sous les sens. Je prends le concept, par exemple, d'ambivalence, qui, j'ouvre une parenthèse, a été introduit par Jung. En tout cas, la structure même du concept ambivalence est l'unité des contraires. C'est-à-dire, au démarrage même, si vous voulez, du freudisme ou de la psychanalyse, vous avez sa structure éminemment dialectique. Prenez l'inconscient, prenez n'importe quoi, vous avez toujours, ça révèle et ça cache des choses. Prenez le couple amoureux, enfin j'ai parlé tout à l'heure d'ambivalence, etc. Une troisième chose, je ne sais pas si je me ferai comprendre, puisque je ne veux pas m'étendre là-dessus immédiatement et directement par tout le monde dans une minute, certains concepts de base ne sont pas des catégories empiriques. L'inconscient, la libido, ajouter quelques autres concepts de base, comme dans l'autre champ, la plus-value, etc., ne sont pas des catégories empiriques, c'est-à-dire on ne peut pas les toucher. Vous savez tous qu'on peut voir le profit, on peut voir la rente foncière, on peut voir tout ce que vous voulez dans la réalité de la vie économique. La vie économique capitaliste tourne, d'après Marx, autour du concept de base de la plus-value, mais la plus-value n'est pas une catégorie empirique, c'est-à-dire on ne la touche pas, on ne la voit pas comme ça. Tu sais, je ne vais pas utiliser le terme essence, ça risquerait de choquer l'un ou l'autre d'entre vous, mais en tout cas c'est de cet ordre-là. Et l'inconscient, la libido, etc., sont aussi de cela. L'œuvre entière tourne autour de cela et il ne s'agit pas de réalité empirique. Bien. Ça me semble très important et très intéressant à moi. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est pas très grave. Peut-être donc, on pourrait, de toute façon, si je vais trop vite, comme je ne connais pas de façon étroite et prolongée le public ici présent, j'avance, on verra bien dans la discussion si vous aimez que je revienne sur l'un ou l'autre point. Ou, comme je le traite évidemment partout, je n'ai pas la moindre prétention de penser qu'en 30 minutes ou 45 minutes, je puisse traiter et du marxisme et de la psychanalyse et de leur rapport, qu'on verra jusqu'où on arrivera. Alors, je viens donc au véritable sujet, si vous voulez, qui me semble en tout cas le véritable sujet, c'est les rapports entre marxisme et psychanalyse et vice-versa, de la psychanalyse et du marxisme. Ce n'est pas la même chose. Une fois, ça va, comment les marxistes ont perçu, ont construit des rapports ou l'absence de rapports avec la psychanalyse et vice-versa dans l'autre camp. Alors, je crois que c'est plutôt une longue histoire, sauf relativement récemment, d'absence de rapport ou de mécompréhension des uns par rapport à l'autre. Je crois qu'il faut parler comment était reçu, perçu le marxisme autrefois, peut-être encore auprès des êtres, auprès de consciences naïves aujourd'hui, pour voir, pour comprendre cette absence relative de rapport. Le marxisme a été très longtemps une espèce de déterminisme économique. C'est ce que ceux qui ne sont pas partisans de cette interprétation du marxisme appellent, si vous voulez, le marxisme vulgaire. Et les marxistes de la fin de l'autre siècle, du début de ce siècle-là, se heurtaient à l'argumentation des adversaires politiques ou scientifiques du marxisme, et la structure de l'argumentation des adversaires du marxisme était toujours basée sur la psychologie. Vous faites de l'économisme, ça veut dire autre chose que le terme économisme chez Lénine, etc., je passe, tandis que vous négligez l'homme vivant. C'est ça que l'économie politique bourgeoise opposait au marxisme. Donc, dans les milieux marxistes, quelqu'un qui raisonnait à base de concepts psychologiques, etc., était très mal reçu, parce qu'en général, on voyait que l'adversaire raisonnait comme ça. Et c'était avoir la psychologie comme schéma explicatif était donc un obstacle, si vous voulez, structurel en quelque sorte, pour que les marxistes s'occupent ou réellement ou essayent de comprendre de quoi il en retournait dans l'édifice, si vous voulez, de la psychanalyse, de son mouvement qui commençait à se construire. Je dis tout de suite entre parenthèses, mais ceci n'est pas très important dans ce contexte-là. Il n'y avait pas seulement les adversaires bourgeois du marxisme qui utilisaient une argumentation basée sur la psychologie ou le psychologisme, ce serait plus réel de dire, mais vous savez que le grand adversaire du marxisme a été l'anarchisme, adversaire théorique qui est dans la lutte pour l'hégémonie dans la classe ouvrière, une partie des anarchistes, qui étaient les partisans de Stirner, qui est d'ailleurs un contemporain de Marx, les anarchistes du type individualiste, argumentaient aussi contre le marxisme à base d'arguments psychologiques. Ça ajoutait, si vous voulez, donc à la confusion ambiante. Il y avait donc... une difficulté, en dépit du fait que si vous achetez aux éditions sociales un petit livre sur études philosophiques de Marx et Engels, il y a dans l'appendice une lettre très très intéressante d'Engels qui est imprimée, où Engels dit à un jeune disciple du moment, nous n'avions pas le temps de nous occuper de psychologie ou le comment les processus sociaux se transmettaient, nous étions occupés par la recherche sur la nature des rapports sociaux. Et nous avons dû négliger ces choses-là. Ça montre donc que les pères du marxisme avaient nette et claire conscience que leur édifice en tant que théorie sociale globale n'était pas terminé, qu'ils avaient fait dans un domaine l'essentiel, mais qu'ils ne se faisaient pas la moindre illusion en croyant qu'ils avaient tout terminé. Dans ce contexte-là, il est intéressant de vous dire que Engels a passé plusieurs années de sa vie dans l'étude de choses qui tombent, si vous voulez, d'un certain point de vue, on pourrait appeler l'histoire de la famille, la sexualité, la psychologie, etc. Et tout le monde a au moins entendu parler, même s'il ne l'a pas lu, le célèbre ouvrage d'Engels sur l'origine de la famille, etc. etc. Donc, ils avaient conscience de cela, que dans la totalité de la société, ils n'avaient pas eu le temps de se demander comment se transmettait idéologiquement la transmission des mécanismes idéologiques. Il y avait ensuite une série d'autres obstacles à l'intérieur du marxisme pour s'occuper, pour s'approcher de façon non prévenue de la psychanalyse. Je vous rappelle d'abord le seul cas, ou un des rares cas contraires, qu'au moment de la Russie révolutionnaire, il y avait un très grand intérêt pour la psychanalyse, et l'État russe, le nouvel État soviétique qui crevait, si vous voulez, de misère économique, avait dégagé de l'argent pour qu'on fasse des expériences du type un jardin d'enfants psychanalytique à Moscou. Et vous savez qu'à la suite de Reich, nous avons publié des comptes rendus d'expérience de Vera Schmidt, c'est maintenant un acquis de tout le mouvement de l'extrême gauche, ceux qui s'intéressent à l'éducation, ce qui se passait à Moscou à ce moment-là. Mais très rapidement, pour deux raisons, la Russie soviétique, qui paraissait donc s'intéresser, commencer à s'intéresser réellement à la psychanalyse, a viré dans une attitude 100% antipsychanalytique pour deux choses. Il y avait une école psychologique authentique russe, le pavlovisme. Pour l'instant, je ne prends pas du tout position. Est-ce que le pavlovisme, c'est juste les histoires de réflexes conditionnés, s'il vous plaît, ou fausses? Mais en tout cas, très rapidement, avec la dégénérescence stalinienne, avec la contre-révolution stalinienne, le pavlovisme est devenu doctrine d'État dans le domaine de la psychologie. Et vous comprenez qu'une réflexologie de ce type-là, comme vous savez en France, par exemple, que les gens du PC, sauf très récemment, étaient tous contre la psychanalyse, étaient pour une psychologie expérimentale qu'ils partageaient méthodologiquement, si vous voulez, avec X savants bourgeois qui n'étaient pas déclarés bourgeois dans ce domaine-là. Et, par exemple, l'enseignement de la psychologie à Vincennes, où je suis pas au département de psychologie, est sous la coupe, si vous voulez, des membres du PC qui font de la banale psychologie expérimentale. S'il y a ici des partisans de la psychologie expérimentale, c'est tout à fait leur droit, mais je vous signale simplement ça comme un des obstacles généraux, si vous voulez, à la perception de la psychanalyse. Il y avait très peu d'intellectuels russes, et malheureusement, de ce point de vue-là, il faisait partie de l'opposition. Par exemple, Trotsky, qui était capable d'écrire des choses ou de comprendre intelligemment et le pavlovisme et la psychanalyse. C'est pas parce qu'il pensait que les recherches de Pavlov étaient intéressantes qu'il fallait cracher sur la psychanalyse comme science bourgeoise et des balivernes de ce genre-là. À l'extérieur de la Russie, il y avait aussi des obstacles à la perception par les marxistes de la psychanalyse. Par exemple, l'austromarxisme, dont vous savez probablement à peine quelque chose, parce qu'il n'a jamais, en tout cas, il ne joue aucun rôle réel actuellement et depuis des années, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Vous savez peut-être, j'ouvre une parenthèse, que Léon Blum prétendait un petit peu d'être influencé par l'austromarxisme, mais de toute façon, il est mort et il est bien enterré. Et les austro-marxistes avaient comme obstacle de la perception du freudisme le fait que Adler était autrichien, se disait socialiste ou socialisant, et que quand les austro-marxistes s'intéressaient à la psychologie, ils étaient en général adlériens. Ça allait si loin que je peux vous citer le cas très intéressant de quelqu'un qui est un peu connu en France, dont vient de paraître un livre sur Adler. Manès Sperber, qui, pour le compte de Staline, terrorisait les Adlériens parce qu'ils s'étaient investis là. Mais en tout cas, c'était toujours anti-freudien. Il y avait un seul qui essayait de faire la liaison entre socialisme, psychanalyse, marxisme et psychanalyse, c'était Bernfeld, dont on va peut-être commencer maintenant, depuis que un livre de lui vient de paraître, il est mort depuis longtemps, vient de paraître, parce qu'il a écrit des choses ultra intéressantes sur les limites de la pédagogie et du pédagogisme. L'Allemagne intellectuelle extrême-gauche le redécouvre actuellement, mais il y avait un obstacle de taille. Bernfeld était un adversaire de Reich, de Wilhelm Reich, sur lequel je dirai deux, trois mots, et ça était un obstacle donc que l'intérêt qu'une liaison, qu'un freudo-marxisme s'établisse, si vous voulez, de quelque importance, puisque Reich, à ce moment-là, se soumettait. Il s'agit des années, il faut vous imaginer la fin des années 20, c'est-à-dire la pleine dégénérescence du Comintern, de la Troisième Internationale, et Reich voulait être un bon communiste orthodoxe, ce qui rendait difficile pour Reich de joindre et, si vous voulez, des courants social-démocrates ou socialistes de gauche et, d'autre part, dans le domaine scientifique et savant, l'école de Francfort. Donc vous avez peut-être entendu des choses. Je vous signale que ces jours-ci est paru un livre qui est sûrement intéressant de Jean-Marie Vincent sur l'école de Francfort, qui, elle, de son côté, peut être taxée freudo-marxiste, mais son étoile à ce moment-là Marcuse était un des jeunes qui était à ce moment-là, mais il n'était pas le seul, il y avait quelqu'un d'autre qui était plus connu que lui à ce moment-là, Erich Fromm, qui se voyait et marxiste et psychanalyste officiel. Depuis peu de temps, on a commencé à publier des choses de Fromm, malheureusement, 30 ou 40 ans après, où Fromm se dit n'être plus psychanalyste et croit toujours qu'il est marxiste, chose dont, si j'ose citer Marcuse et moi en même temps, nous doutons très fortement. Bien, moi, sous l'influence de Marcuse, naturellement, je ne l'ai pas trouvé tout seul. En France, pour terminer les rapports marxisme-psychanalyse vus des marxistes, si vous voulez, Daniel Guérin, qui incontestablement peut être taxé de freudo-marxiste, n'était pas investi, si vous voulez, dans ce secteur-là. Et les préventions, comme en même temps Daniel Guérin faisait une apologie de l'homosexualité, de l'homophilie, c'était très mal vu, y compris dans les milieux de gauche, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Daniel Guérin sort comme un espèce de bloc erratique, mais en tout cas il n'y avait pas de mouvement psychanalytique. Il y avait un article d'un Belge que ceux qui sont plus âgés, la fraction plus âgée ici dans la salle a peut-être lu quand il y avait la revue Argument, et ensuite il y avait surtout l'effort autour de la revue Partisan, où d'autres gens et moi nous nous sommes agités pour transmettre le virus du freudo-marxisme aux militants français. Alors il y a, maintenant je vais ultra rapidement parler sur les obstacles à l'intérieur du champ ou de l'édifice ou de l'empire freudien, prenez ça comme vous voulez, je dis ça comme ça avec une nuance si vous voulez de caricaturale, quoique je prends ces choses là tout à fait au sérieux, sur les obstacles à l'intérieur de la psychanalyse envers le marxisme. Il faut aussi avoir un point de vue historique là-dessus. On ne peut pas parler d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, ce que je vais présenter paraîtrait ridicule et totalement déphasé ou totalement non existant, parce que la structure même de la vie intellectuelle a totalement et profondément changé en Europe occidentale après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut comprendre qu'au début du siècle, ou à la fin de l'autre, le marxisme était vu, elle l'est toujours d'ailleurs, mais était vue comme doctrine, comme la théorie du socialisme, puis ensuite du communisme, et qu'il s'agissait de l'aspect théorique, doctrinal, du combat de la classe ouvrière organisée. Elle était donc, je ne veux pas dire des choses vulgaires, mais pour l'instant je peux utiliser ce concept-là, elle était donc une espèce de doctrine prolétarienne. Alors il faut comprendre que le monde des intellectuels n'avait aucune liaison avec ce monde-là, était, si vous voulez, non socialiste, sinon antisocialiste. Ça, c'est une situation très difficile à comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est même devenu un sujet de plaisanterie, si vous voulez, que les intellectuels se voient, en tant que couche globalement, se voient ou sont vus de gauche. Une série de bandes dessinées du genre Les Frustrés de Claire Bretécher n'aurait pas de sens si elle n'analysait pas que dans ces milieux-là, il est de bon ton de se voir de gauche, éventuellement d'extrême gauche, et un intellectuel qui est ouvertement de droite ou antisocialiste est mal vu et a des sentiments à des complexes. Si vous écoutez France Culture, si vous écoutez des interviews avec Raymond Aron ou des écrivains de droite, Raymond Aron, j'ai entendu récemment, il dit « Oui, j'ai le courage de dire que je suis contre-révolutionnaire. » Parce que tous les gens qui sont réellement dans la droite n'osent pas le dire. Et il y a dans la France officielle entre guillemets, mais naturellement, la France officielle, quand je dis ça, je dis la France du Nouvel Observateur, la France qui lit le Nouvel Observateur, est, si vous voulez, de gauche. Alors, ça, c'est une situation nouvelle. l'intellectuel était contre, était en dehors du socialisme, était en général contre le socialisme. Alors, comme les porteurs, Freud lui-même, qui sortait d'un monde patriarcal autoritaire, mais qui sortait quand même du monde de l'université, lui en tant que le petit juif, originaire de Freiberg, une toute petite ville en Tchécoslovaquie, essayait, et toute sa première partie de sa vie était tournée autour de réussir à Vienne, parce que c'était le fin du fin pour un petit juif de la province, de l'empire austro-hongrois, de réussir à Vienne. Et pour des gens qui l'ont suivi, qui n'étaient pas le plus grand des hasards, tous d'origine juive, sauf Jung, qui était un solide antisémite, mais ça c'était l'exception. Voilà d'ailleurs peut-être en quoi Freud voulait faire son successeur de lui, ça a raté, mais ça c'est à la limite, c'est très sérieux, mais je le dis sous forme plaisante. Si vous voulez, il ne pouvait pas y avoir pour plusieurs raisons. Premièrement, Freud était un idéologue du pessimisme culturel, tandis que le socialisme, surtout le socialisme à ce moment-là, était rempli d'optimisme. Le socialisme ne connaissait pas de défaite majeure à ce moment-là. La chute de la Commune de Paris n'était pas vue par les marxistes comme, si vous voulez, d'abord pas vue comme une défaite à l'échelle historique, et deuxièmement pas en tout cas comme un échec dont on va discuter, parce que des marxistes avaient échoué, ou la politique des marxistes avait proposé, d'abord il n'y en avait pour ainsi dire pas, dans la Commune, et Marx avait endossé l'héritage de la Commune pour des raisons supérieures sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais en tout cas ce n'était pas vu sous cet angle-là par le socialisme marxiste comme une défaite. Et le socialisme c'était l'optimisme culturel. Il y avait la rapide dégénérescence publique, si vous voulez, de l'Union soviétique. Et la fraction des intellectuels, qui dans toute l'Europe, avait trouvé un sens à leur vie à travers la révolution russe de 1917 et à travers ce que la révolution de 1917 avait créé, c'est-à-dire un nouveau monde pauvre où les gens crevaient de faim, mais un nouveau monde où de nouvelles choses se faisaient, était très rapidement choqué par ce qui se passait, si vous voulez, par la dégénérescence politique de l'Union soviétique. Ils étaient tous des intellectuels, les premiers porteurs de la psychanalyse. Donc, je l'ai déjà essayé d'expliquer plusieurs fois, pourquoi le fait d'être intellectuel voulait dire à ce moment-là automatiquement d'être antisocialiste. Et il y a eu un premier essai très malheureux. Il y a eu un psychanalyste dont je ne veux même pas citer le nom, qui a écrit un livre ultra stupide sur le marxisme, la révolution russe, etc., expliquant tout par, naturellement, comme deux psychanalystes ont expliqué mai 68 par la révolte contre le père ou des choses comme ça, d'expliquer tout cela par la révolte contre papa, ce qui faisait naturellement ricaner les gens qui s'intéressaient réellement à la révolution russe, etc. Il n'y avait donc pas possibilité, si vous voulez, qu'à l'intérieur de la psychanalyse, on s'occupe de façon réelle du marxisme. Je passe sur les quelques remarques de Freud qui sont mais très, très, si vous voulez, à la limite de son œuvre, où il parle, y compris en bien et y compris en mal, du socialisme. Mais ça ne va pas plus loin qu'un aperçu, si vous voulez, comme on dit, un aperçu de salon. On ne peut pas construire une théorie là-dessus. Et il y avait donc, si vous voulez, non-communication entre la psychanalyse de son et le marxisme. Le premier, je voudrais peut-être terminer mes remarques préliminaires pour laisser place à un débat approfondi. Le premier essai était la tentative de Wilhelm Reich, qui venait de la psychanalyse, qui, en approfondissant la dimension de travailleur social, un psychanalyste avec un langage moderne, si vous voulez, c'est un travailleur social, et en approfondissant la problématique du champ du travail social, était tombé que, ce qui est évident, aujourd'hui c'est une évidence, parce que pour nous, ça n'a même pas besoin d'être fondé, que les causes réelles des maladies psychiques, je parle des causes réelles des maladies psychiques en général, je ne parle pas d'X, Y en tant qu'individu, sont d'origine générale, et que le malheur est un malheur général, et que si on veut se poser la question de la guérison de la maladie psychique, il faut évidemment se poser la question de la prophylaxie des maladies psychiques. Pourquoi les gens deviennent fous? Quand on se pose cette question-là, on tombe sur la société globale. Pourquoi la société globale est-elle organisée comme elle est? Elle est peut-être aussi folle. Je n'utilise pas ça dans la même connotation comme l'utilisent les antipsychiatries, etc., mais folle dans le sens marxiste du terme, anti-humaniste. Et étant confronté avec une situation anti-humaniste, anti-humaine, il peut y avoir des phénomènes apparents, visibles, pathologiques, qui étaient le but même de recherche de la psychanalyse, qui, de ce point de vue-là, avait amené, si vous voulez, une nouvelle phase qui, au fond, avait fondé la psychologie scientifique dans le sens moderne du terme. Vous avez peut-être l'impression que je suis en train de faire de la propagande pour la psychanalyse, c'est pas du tout ça mon intention, je voulais simplement attirer votre attention comment à travers le cas individuel de Wilhelm Reich, il y a la rencontre entre marxisme et psychanalyse est une nécessité. Et ça dépendait seulement aussi du hasard jusqu'à ce que quelqu'un est au plus haut niveau, en tout cas au plus haut niveau à son moment, essayez de faire la synthèse. Je dois faire une restriction, j'ouvre une parenthèse. Pour honnêteté intellectuelle, je ne pense pas que Reich était au plus haut niveau dans le domaine du marxisme. Il était au plus haut niveau du point de vue psychanalyse. Ça, c'est tout à fait sûr, y compris ses adversaires du moment n'ont jamais mis en doute ses compétences en tant que théoricien de la psychanalyse. Mais il appartenait à une de ces branches du marxisme vulgaire qui est, je ne sais pas si on vous a parlé longuement de la théorie du reflet, qui pense que la conscience n'est que le reflet de l'être social, qui est théorie qui, pour tous les gens qui sont lukacsiens, qui ont une interprétation humaniste du marxisme, n'est que du marxisme vulgaire, naïf et mécaniste. Enfin, c'est bordé d'injures, entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Je veux simplement dire que Reich avait des boulets, tirait des boulets. Le fait qu'il se soumettait, au moins apparemment, au Comintern du moment, et deuxièmement, du point de vue marxiste, il n'appartenait pas à l'école la plus évoluée, pour laquelle je vous citerai deux noms du moment passé, Lukács-Korch d'un côté et l'école de Francfort de l'autre, mais j'ai déjà parlé de cela. Et d'autre part, une autre racine du freudomarxisme est née à l'intérieur de l'école de Francfort, c'est-à-dire une école de Francfort à un mot, une tentative grâce à quelqu'un qui avait hérité du fric, de permettre la recherche désintéressée sur le marxisme, je dis désintéressée, sans résultat politique immédiat, le cas échéant. Parce qu'à ce moment-là, faut vous imaginer qu'on était dans la période dans la troisième période, c'est-à-dire un moment où la classe ouvrière et ces deux expressions traditionnelles et officielles, la social-démocratie d'un côté et le PC, le grand PC, se déclaraient mutuellement comme adversaires principaux. D'ailleurs, comment dirais-je, période historique qui s'est terminée, comme vous le savez tous, par le désastre.
désastre le plus épouvantable que nous ayons connu dans l'histoire moderne, c'est-à-dire par la victoire d'Hitler. Et il est impressionnant de dire que, de voir que et Trotsky d'un côté et Reich de l'autre étaient ceux qui étaient contre la théorie du social-fasciste, c'est-à-dire qui traitait, qui disait, c'est une théorie, entre guillemets, de Staline lui-même, que la social-démocratie et le fascisme ne sont pas des antipodes, comme on croit, mais ils sont des jumeaux, comme les sociaux-démocrates réclament la classe ouvrière, ils sont non plus dangereux, ce sont des sociaux-fascistes, et au nom de cela, on disait aux petits-enfants communistes en école, battez les petits-enfants sociaux-démocrates, qui sont les traîtres principaux, ça donc finit. Et ça aussi a été traîné par un boulet, parce qu'en même temps, quand Reich essayait de lutter contre l'économisme et la social-démocratie et du stalinisme, triomphant à ce moment-là, il avait des difficultés avec le parti allemand, le parti communiste allemand, dont il était un fidèle et zélé propagateur. Il suffit de rappeler qu'il a fondé, avec l'accord du PC allemand, un mouvement culturel de masse, la célèbre Sexpol, politique sexuelle, et que sa brochure que vous pouvez acheter, quoique Maspero a perdu son dernier procès là-dessus, ça va encore lui coûter le peu d'argent que lui reste, La lutte sexuelle des jeunes, a été écrite, c'est une commande, si vous voulez, de l'Internationale communiste des jeunes, parce qu'il trouvait qu'il fallait une brochure d'information et d'éducation sexuelle pour les jeunes prolos. D'ailleurs, si vous la lisez, si vous êtes capable de vous abstraire de l'immédiat, vous comprenez, elle s'adresse à un tout autre public que tel qu'aujourd'hui on écrit les choses. Elle est écrite pour des jeunes militants communistes, socialistes, aussi parce qu'on essayait à travers cela de radicaliser les jeunes militants sociaux-démocrates, et donc sous cet angle-là, si vous voulez, c'était ça la grande synthèse, mais elle avait aussi des obstacles, et de l'autre côté, l'école de Francfort et Marcuse. J'ai préparé une petite bibliographie pour vous, mais je ne vais pas la lâcher maintenant, parce que je pense que ce n'est pas le moment pour cela. Si à l'intérieur de la discussion, quelqu'un dit, je souhaite, parce que tu donnes une bibliographie minimale, je la donnerai, et de l'autre côté, au plus haut niveau, alors là, et d'après moi, sans la moindre réserve, en tout cas de ma part, en tant que partisan, j'espère pas trop, ni trop naïf, ni trop vulgaire, du freudomarxisme, au plus haut niveau, dans le livre que vous pouvez maintenant même trouver en livre de poche, Héros et civilisation de Marcuse, qui évite tous les inconvénients que j'ai signalés, si vous voulez, des positions politiques et idéologiques de Reich. Je ne sais pas si j'ai galopé trop vite, je ne sais pas si j'ai dit des banalités pour les uns et des choses absolument incompréhensibles de l'hébreu ou du chinois pour les autres. Ce n'est que l'expérience, c'est-à-dire la discussion, qui peut nous montrer cela. Alors, je vous invite donc de participer de la façon la plus vivante et la plus participationniste au débat.